RCF. Bonsoir à toutes et à tous, 18h10, on est très heureux de vous retrouver ce vendredi soir pour le dernier magazine régional de la semaine. On est ensemble pour une cinquantaine de minutes jusqu'à 19h à mes côtés pour passer cette soirée. Manon Bréval, notre stagiaire à la rédaction, bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
On vous retrouvera à l'intérieur du journal régional, notamment pour présenter la météo du week-end de ce samedi et de ce dimanche. Jean-Pierre Benoît va nous rejoindre aussi dans quelques instants. De l'autre côté du téléphone, Jacques Cohen est déjà en place. On va le retrouver dans les prochaines secondes pour évoquer la chronique d'actualité. Le thème aujourd'hui, la marche contre l'antisémitisme prévue ce dimanche à Paris. De nombreuses villes de France, évidemment, vont rejoindre cette initiative. C'est le cas à Reims, où le maire de Reims, Arnaud Robinet, a appelé les Rémois à se rassembler dimanche à 15h, place Simone Veil. La question que posera Jacques Cohen dans quelques secondes, une marche blanche ou une marche à blanc? Il répondra à cette question. Un maire qui vous parle, qui nous parle, le maire de Cruny, Philippe Salmon, sera avec nous juste avant le journal régional de 18h30. Et puis on fera également un zoom sur le festival photo de Montier-en-Der. D'ailleurs, il y aura une émission spéciale, un magazine régional produit depuis Montier-en-Der. Ça sera jeudi prochain, le 16 novembre. Avec nous ce soir également, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais également président de la Conférence des évêques de France. Il était cette semaine à Lourdes où s'est tenue l'assemblée plénière des évêques. Il racontera tout cela au micro de Jean-Pierre Benoît. Voilà pour le sommaire de cette émission. Le programme est riche, vous l'avez compris. Alors sans plus tarder, on va démarrer par la chronique d'actualité de Jacques Cohen qui ouvre l'émission comme tous les vendredis. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes avec nous et aujourd'hui dans l'actualité, vous voulez nous parler d'un événement prévu ce dimanche, la marche contre l'antisémitisme, à l'appel de Gérard Larcher, président du Sénat, et de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. À quoi servent les marches d'une façon générale, professeur Jacques Cohen?
Bien, d'habitude, ça sert à se compter. Et là, j'ai bien peur qu'on soit assez mal parti en convoquant une marche dans de mauvaises conditions, à la fois de délai, à la fois d'appui des forces politiques, et sur une question qui ne se pose pas. L'essentiel de la société française, plus de 90%, est absolument hostile au pogrom du Hamas et aux manifestations d'antisémitisme qui ont eu lieu en France. Une marche donc n'est pas l'important. L'important, c'est d'isoler les rares partisans de ces actions et de les réprimer. D'avoir en plus une cacophonie politique pour savoir si on défile tous ensemble, les uns derrière les autres, les uns mis de côté, etc., ça me paraît également complètement aberrant. Churchill n'a pas eu une seconde d'hésitation à s'allier avec Staline, qu'il ne devait pas forcément beaucoup aimer, pour lutter contre Hitler. Parce qu'on doit avoir un seul ennemi à la fois, c'est un béaba. Et donc pour combattre les islamistes, tout le monde est bienvenu. Je ne comprends absolument pas que cette discussion pour savoir s'il faut ou pas excommunier le Front National, le mouvement actuel issu du Front et puis lui-même de son passé, lui rappeler son passé. S'il a changé, c'est tant mieux, de mon point de vue. Qu'il puisse éventuellement revenir à de mauvaises idées plus tard, ce n'est pas la question. Ce qui compte, c'est hic et nunc. Hic et nunc, il faut montrer une opposition unanime de la société, et puis ceux qui ne sont pas sur cette position, qui sont pour soutenir le mouvement antisémite du Hamas ou des manifestations de ce genre en France, eh bien, il faut les combattre. Et les combattre fermement. Je ne comprends pas, par exemple, que la dame qui a mis des tweets pour se marrer du gamin foutu dans un four à micro-ondes, dans un kibbutz, et qui discutait des sauces pour l'accompagner, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas en taule. C'est de l'apologie du terrorisme. Et là, on a envisagé qu'elle pourrait être convoquée, pour etc., 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 mais elle n'a pas été arrêtée, et ça, ça me montre un niveau de répression totalement insuffisant. Il faut être absolument intraitable sur les manifestations d'antisémitisme, comme de tous les racismes, et il ne faut pas hésiter à manier une répression tout à fait féroce. Or, on semble vouloir encore prolonger le fait qu'on ne voudrait pas s'affronter aux islamistes, et donc que si on pouvait gentiment leur demander de mettre une sourdine, etc., mais ce n'est pas la question. Les partisans des pogroms, il faut les combattre et les mettre au trou. Ça me paraît un béaba. Et on a, de ce point de vue-là, un mauvais exemple historique. Dans le début du retour du nationalisme allemand qui va terminer par le nazisme, on a le putsch d'Hitler à Munich, où il va être condamné à peu d'années et en faire encore moins. ça va lui faire un an pour rédiger son bouquin. On a l'assassinat surtout, que je voudrais prendre comme comparaison, l'assassinat de Walter Rathenau.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus, professeur?
Absolument. En 1924, Walter Rathenau est assassiné, parce qu'on en fait le bouc émissaire des difficultés économiques et politiques, par l'extrême droite allemande, parce qu'au passage, Rathenau est juif. Il va y avoir un énorme rassemblement populaire, montrant que la société allemande en 1924 n'est pas du tout prête à exclure sa population juive, etc. Seulement la répression, elle va être extrêmement modeste, et par exemple, un des instigateurs de cet assassinat, Ernst von Salomon, ne va prendre que 5 ans pour complicité, qu'il ne fera pas non plus. Et donc, quand on ne réprime pas, eh bien, vous avez compris ce qui se passe. Qu'on ne réprime pas Hitler, qu'on ne réprime pas les assassins de Rathenau, que ce soit directement ou indirectement, complice ou pas, eh bien, dans ce cas-là, on se retrouve avec une montée progressive de gens qui n'ont pas grand-chose à craindre. Or, il faut taper, j'allais dire, sans sourciller. Si, pour terminer, on prend les deux Moldaves stipendiés pour aller mettre des étoiles de David et qu'on envisage de les expulser, sous prétexte qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'ils faisaient, ben, ce n'est pas la question. Ils ont été complices, ils ont même été payés pour ça, donc au trou. Il n'y a pas de raison de les expulser. Ils doivent être en prison comme apologie de l'antisémitisme, des terroristes, etc. Donc, que ce soit des imbéciles qu'on a un peu payés pour le faire ou pas, il faut réprimer toute action. Et comme ça, ça fera comprendre aux autres imbéciles que ce n'est pas la peine d'accepter 3 billets pour faire des graffitis, que ça coûte très cher. Si on ne le fait pas, eh bien, on banalise, on admet l'insertion, l'enracinement du mouvement islamiste antisémite et à volonté de djihad, j'allais dire de croisade, eh bien, si on admet son enracinement dans notre pays, il va croître peu à peu. Et le prix de l'affrontement, parce qu'un jour ou l'autre il faudra le faire, sera de plus en plus coûteux.
Professeur Jacques Cohen, vous en parliez au début de votre chronique, mais une des polémiques de ce dimanche est de savoir s'il faut y aller avec le Rassemblement National ou pas. Vous, le mot d'ordre, c'est un seul ennemi à la fois, et tout le monde y va, parce que pour l'instant, on a un ennemi à combattre, un même ennemi tous ensemble.
Exactement, exactement. Et quelle que soit la solidité des convictions de certains antisémites reconvertis de fraîche date, peu importe. Pour moi, il faut prendre tous ceux qui s'inscrivent maintenant contre le racisme et l'antisémitisme.
Avec une question subsidiaire pour vous, professeur Jacques Cohen, quelle doit être la place du président de la République? Parce qu'il est assez rare de voir le président aller faire ce genre de marche. On l'a vu par exemple il y a quelques années à l'époque de Charlie Hebdo avec François Hollande qui est avec d'autres représentants d'État. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre place dans cette marche par exemple?
Je suis assez réservé là-dessus. On a les présidents des deux assemblées. Le président de la République, à mon avis, doit se réserver pour les grandes occasions quand il est sur un événement ponctuel précis en France. C'est un problème tactique. Mais malheureusement, je crains qu'il aura bientôt l'occasion, si justement on ne réprime pas sérieusement, de devoir affirmer sa position sur des événements plus importants que quelques étoiles de David sur des murs. Et que, si j'ose dire, on devrait le garder en réserve en ayant les deux présidents des assemblées pour ce rassemblement, qui en plus me paraît, je vous l'ai dit, très mal engagé et dans de très mauvaises circonstances.
Finalement, professeur, cette marche, à quoi peut-elle servir?
Eh bien justement, c'est le problème, parce qu'on a maintenant pris des habitudes en France de faire un rituel qui s'appelle une marche blanche, chaque fois qu'il y a quelque chose que l'on veut considérer comme déplorable, mais vis-à-vis duquel on n'a pas de mesures très précises à prendre. Et donc une marche blanche, c'est un petit peu une marche à blanc. Et j'ai peur que ce soit la situation de cette marche prévue dimanche, puisqu'elle n'a pas d'objectif de se compter, qu'elle n'a pas d'objectif d'assumer une répression féroce qu'il faudrait faire. Et ça me fait penser à une autre marche et un poème d'Aragon qui concernait les marches en France concernant l'affaire Sacco et Vanzetti, quand il était question, et ce qui s'est passé, de les électrocuter aux États-Unis, ces deux anarchistes accusés à tort d'assassinat. Il y a un poème d'Aragon qui s'appelle « Il n'y avait que des mouches sur le port de Dieppe ». C'est qui m'en disait que le fait de défiler, c'était bien gentil, mais que ça n'aboutissait pas à grand-chose. Eh bien, je ne voudrais pas que l'on soit dans la même situation avec une marche blanche qui ne soit qu'une marche à blanc et que les participants à cette marche puissent compter les mouches en défilant entre les deux assemblées.
Affaire à suivre. Donc, professeur, merci de nous avoir éclairé sur cette marche contre l'antisémitisme prévue dimanche. De nombreuses marches devraient partir, j'allais dire, un petit peu partout en France, évidemment. À très bientôt, professeur.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
C'est votre rendez-vous quotidien aux alentours de 18h20 du lundi au vendredi dans le magazine régional sur RCF. Un maire qui vous parle, direction Cruny dans la Marne avec Philippe Salmon. Aujourd'hui, c'est avec vous Jean-Pierre.
Philippe Salmon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on a envie de connaître cette commune de Cruny dont vous êtes le maire. Est-ce que vous pouvez rapidement nous la présenter, le nombre d'habitants, peut-être la diversité de ses habitants?
Écoutez, avec grand plaisir. Oui, alors Cruny, d'abord, en nombre d'habitants, c'est un tout petit peu moins de 700, 680 habitants. Voilà, nous sommes surtout positionnés, situés dans ce qu'on appelle la vallée de l'Arbre, hein, qui est une rivière qui prend sa source à Courtagnon et qui se jette dans la Velle à Fismes. Pour revenir au village, eh bien, c'est un village bien sûr rural qui possède pas mal d'atouts, puisque nous avons notamment un tissu associatif qui est très dense pour, en tous les cas, le type de village que nous représentons. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Une église également, une église qui est classée du 11e, 12e et 13e siècle, hein, qui fait l'objet de nombreuses visites. Et puis quelques commerces, bien entendu, moins qu'avant, hein, bien évidemment. Mais néanmoins, on a pu, cette année, notamment en 2023, réouvrir une boulangerie, ce qui est un bien important pour notre village.
Alors parmi ces habitants, quel type d'habitants? Vous avez des retraités, vous avez des agriculteurs ou peut-être des viticulteurs ou quelques jeunes qui s'installent? Est-ce qu'il y a des installations aussi de jeunes qui arrivent à Cruny?
Oui, alors tout à fait. En vrai dire, vous avez cité d'abord les agriculteurs, viticulteurs, parce qu'effectivement nous sommes dans une zone agricole et viticole, donc nous avons plusieurs vignerons et agriculteurs, des éleveurs également, puisque nous avons une famille qui a 450-500 têtes d'élevage. Ensuite, effectivement, on n'a pas seulement que des retraités, et tant mieux, et heureusement, il y en a, bien sûr. Non, nous avons, je dirais, une assez grande mixité, d'abord parce que nous avons la chance d'avoir connu une école qui a été inaugurée et construite en 2004, ça va faire 20 ans l'année prochaine, on fêtera ça, qui accueille 130 enfants de la maternelle jusqu'au CPCM, de Courville, de Cruny et de Mont-sur-Courville. Voilà, les trois communes se sont regroupées. Cette école dispose également, bien sûr, d'une restauration de colère le midi, mais aussi d'une crèche qui est gérée par famille rurale, et puis également le périscolaire géré lui aussi par famille rurale. Donc vous voyez, beaucoup d'atouts pour les jeunes, et c'est l'explication. Nous avons eu effectivement sur les 10 dernières années des implantations assez nombreuses, puisqu'il y a eu 24 constructions récentes sur les 10 années dernières. Voilà, donc effectivement, nous avons aussi bien sûr quelques résidences secondaires qui sont, alors on dit souvent des Parisiens, même s'ils ne sont pas de Paris, mais en tout cas de la proche banlieue, qui ont quelques maisons. Voilà, donc très variés au niveau des âges, au niveau également des professions, puisque nous avons beaucoup de personnes, bien sûr, qui travaillent sur Reims, mais également sur Fismes, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous sommes à 7 km de Fismes, ce qui est pour nous notre bourg central.
Vous êtes maire déjà depuis quelques années. Ça a toujours été chez vous une passion de vous investir pour, j'allais dire, le service public, pour une mission très importante, parce que le maire, ça représente pour beaucoup d'habitants quand même quelque chose de très important. On connaît son maire.
Écoutez, oui, on connaît son maire et j'ai la prétention de dire, mais en toute simplicité, que je connais également tous les habitants de Cruny. Voilà, je crois que c'est réciproque. Effectivement, on a de plus en plus, et malgré le modernisme, hein, d'Internet, les réseaux, etc., nous ressentons bien que nos concitoyens ont besoin de cette proximité qui est offerte par les maires, par les mairies, par le conseil municipal, bien entendu, que j'associe. Donc voilà, c'est le samedi matin, je prends un exemple, nos permanences de la mairie, de 9h à midi, je suis toujours présent et avec beaucoup de plaisir, j'accueille toute personne qui a besoin de renseignements, de conseils ou que sais-je. Voilà, ça fait partie de ça. Alors, vous avez dit effectivement que c'est une passion, je ne sais pas. Je ne m'étais pas préparé à ça pour ne rien vous cacher. Je travaillais dans le domaine privé. Bon, néanmoins, voilà, après, par ma disponibilité, j'ai pu m'investir et effectivement, pour moi, c'est devenu un plaisir plutôt qu'une passion, un vrai plaisir de m'efforcer, j'espère que j'y parviens, à rendre service, voilà, tout simplement, je crois qu'il ne faut pas chercher d'autres mots, à rendre service à une population qui a besoin, parce que voilà, c'est pas toujours simple, hein, il y a des personnes âgées, on l'a dit tout à l'heure, avec des difficultés parfois pour certaines missions que l'on fait maintenant plus facilement par Internet, et c'est pas toujours simple, mais aussi des jeunes, voilà, qui ont besoin aussi un petit peu de savoir d'abord où ils mettent les pieds quand ils investissent, hein, c'est important de présenter notre village, et puis aussi tous les conseils, bien sûr, la vie de tous les jours.
Il faut dire, Philippe Salmon, que depuis quelques années, avec le Grand Reims, ça a changé quand même la donne. générale de la vie de ces villages. Mais quand même, je vais être un peu familier, dans sa commune, malgré tout cela, le maire reste, entre guillemets, le patron de sa commune, d'une certaine façon.
Oui, alors le maire reste patron, oui, si on veut, c'est un terme, pourquoi pas, qui est sympathique. D'abord, quand on parle de maire, moi j'aime bien également qu'on parle du conseil municipal, puisque le maire tout seul, je crois qu'il ne pourrait pas faire grand-chose, et même au niveau de l'équipe administrative. Hein, nous avons une secrétaire, nous avons également un agent communal. Encore une fois, le maire, bien sûr, c'est le patron, comme vous avez dit, je fais bien. Néanmoins, encore une fois, on travaille en équipe. Sans équipe, bien sûr, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, on peut avoir des concertations un peu parfois... un peu plus difficile que d'autres, parce que voilà, un peu de contradiction, ça ne fait jamais de mal. Bon, on a beaucoup de chance ici à Cluny, ça se passe plutôt bien, avec une équipe que j'ai au conseil municipal, qui est là aussi très variée, très mixte, avec bien sûr à peu près la mixité entre hommes et femmes, mais aussi au niveau des professions, au niveau des âges. Donc voilà, tout ça, ça se passe plutôt bien. Alors on entend, hein, notamment dans la presse fréquemment, malheureusement, des élus qui sont de plus en plus agressés, hein, faut en parler. Bon voilà, nous avons, et je touche un peu de bois en même temps que je vous parle, nous avons quand même ici au village pas trop de soucis de ce côté-là. Bon, on sent une certaine agressivité parfois de certaines personnes, bon, voilà, qui voudraient que ça aille plus vite, qui voudraient que ça se fasse autrement. Mais bon, voilà, ça a toujours plus ou moins existé. Maintenant, c'est peut-être un peu plus visible parce que voilà.
Tous les maires, d'ailleurs, Philippe Salmon, tous les maires à notre micro nous en parlent. C'est vrai que finalement, beaucoup de gens soutiennent leur maire, accompagnent leur maire. Il y en a toujours, forcément, dans une commune, des gens qui, comme on dit un peu familièrement, rouspètent un peu. Mais ça, comme vous le dites, ça a toujours existé. Est-ce que vous avez des projets en cours, à court terme ou à moyen terme, à Cluny en ce moment, Philippe Salmon?
Oui, oui, tout à fait. Je vais répondre à votre question, mais si vous me permettez, revenir, parce que vous avez cité la communauté urbaine du Grand Reims. Alors, effectivement, nous sommes passés depuis 2017 en communauté urbaine du Grand Reims. Nous étions déjà auparavant regroupés avec une vingtaine de communes, hein, autour de Fismes, en communauté de communes, tout simplement. Alors, effectivement, ça a changé certaines choses, c'est vrai. Néanmoins, je milite, hein, pour cela, depuis le début, depuis toujours. Je suis un partisan complet de ces regroupements, ben pour une simple raison, c'est une raison également économique et financière, tout simplement parce que nous, petites communes, maintenant, pour notamment construire une école, construire une station d'épuration, refaire des routes, c'était tout simplement mission impossible au niveau de finances. Ça est devenu grâce à notre communauté urbaine. Et puis, bien entendu, la communauté urbaine, elle est rurale chez nous, hein, puisque c'est une communauté urbaine du Grand Reims, mais avec une majorité de communes rurales. Et nous avons la chance d'avoir une présidente, Mme Catherine Vautrin, que je dois citer parce qu'elle connaît bien le milieu rural, elle y a été députée. Donc il n'y a pas de difficulté, si vous voulez, entre le rural et l'urbain, comme parfois on voudrait l'entendre. Ce n'est pas exact. On a besoin des uns des autres et nous travaillons de cette façon-là.
Maire et vie professionnelle ou vie familiale, il y a beaucoup de maires qui nous disent, surtout en disant très très occupés sur le plan professionnel, c'est pas si simple que ça finalement pour un maire aujourd'hui.
Je pense que c'est un choix. Alors, c'est un choix qui est connu à l'avance. Nous savons très bien que si on se présente aux élections et si nous avons la chance d'être élus, ce n'est pas pour rester à la maison et regarder la télévision. Donc moi, je pars un peu de ce principe-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, sur le plan professionnel, ça peut effectivement poser quelques problèmes à certaines personnes. Mais voilà, la disponibilité est nécessaire. Alors, bien entendu, le maire est peut-être un petit peu plus en première ligne, à mieux où sa disponibilité, elle doit être... que j'essaie de faire, permanente, parce que bien entendu, les sujets n'arrivent pas forcément à un moment où ils arrivent quand ils doivent arriver. Voilà, ça peut être la vie également. Mais encore une fois, c'est connu à l'avance. Après, au niveau, oui, de la vie privée, on va dire, hein, familiale, c'est certainement pour certains élus, finalement, un peu plus difficile. Bon, moi, j'ai malheureusement perdu mon épouse il y a une dizaine d'années, mais encore une fois, mon épouse me donnait toute ma disponibilité qui m'était nécessaire pour accomplir ma mission.
Philippe Salmon, c'est vrai que beaucoup d'élus, alors je vous interpelle très, très, très gentiment, bien sûr. On parle d'ailleurs maintenant de revenir sur la loi du cumul, parce que c'est vrai que quelqu'un qui est élu au niveau national, s'il n'est pas quand même inclus dans la vie locale, c'est quand même très embêtant. Vous avez aussi des fonctions de député suppléant dans la circonscription, mais le fait d'être maire vous enracine dans un terroir et une réalité.
Oui, alors encore une fois, cette loi qui consistait à effectivement ne pas accepter le cumul des mandats pour les parlementaires, hein, sénateurs ou députés, pour moi est une loi absurde, tout simplement parce que je pense qu'avec un mandat notamment de maire, ça permet de garder le contact déjà avec la population de belle façon. En tout cas, c'est ce que fait notre députée de la circonscription, Mme Lormillère, qui a été d'ailleurs également conseillère départementale. et qui a été également adjointe à la mairie de Reims. Ben voilà, elle est au contact, elle n'est pas forcément qu'à Paris. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est ce que nous avons besoin, je crois, d'un parlementaire ou d'une parlementaire. C'est ce qui se passe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on a souvent parlé un peu de hors-sol, parce que lorsque vous quittez un petit peu votre secteur, vos racines, eh bien, peut-être qu'on ne voit plus les choses de la même façon. Et pour faire et pour prendre les lois qu'il s'impose de prendre pour notre pays, ben, je pense qu'il faut d'abord aller sur le terrain, comme on dit, et écouter les gens. Je crois que c'est ça aussi qui est important.
Merci Philippe Salmon d'avoir été avec nous, maire de Crugny. En tout cas, à très très bientôt sur RCF. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très très bientôt. Au revoir.
Et au revoir.
18h30 à l'horloge, l'heure du journal régional sur RCF. Les titres de ce vendredi 10 novembre 2023, nouvelle gouvernance, nouvelle marque, nouveau projet, l'université d'été architecture en Champagne se lance dans un nouvel élan pour le printemps 2024. Choc de Ligue 1, demain après-midi, le Stade de Reims reçoit le Paris Saint-Germain. Zoom sur cette affiche.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
On en parlait en début d'émission avec Jacques Cohen. Ce dimanche est organisée à Paris une marche contre l'antisémitisme. De nombreuses villes s'en feront le relais. À Reims, les Rémois sont conviés par le maire à se réunir dimanche à 15h, place Simone Veil. L'archevêque de Reims, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, y participera. Il nous en dira plus tout à l'heure avec Jean-Pierre. Créée en 2016 par Chalon Aglo et la Maison de l'architecture Champagne-Ardenne, l'Université d'été architecture et Champagne a pour objectif de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des paysages champenois. Lors des 4 premières éditions, des étudiants en architecture ont réinventé la cabane des vignerons. Le 20 octobre dernier, la création d'une nouvelle marque et d'une nouvelle association a été annoncée. Architecture en Champagne, un événement unique pour le président de Chalon Aglo, Jacques Gesson.
C'est une opération qui, je pense, fait l'unanimité. Tout le monde lui reconnaît un intérêt majeur. Pour autant, on a eu un peu l'intermède du Covid qui nous a permis de nous poser un peu et puis de réfléchir à notre avenir, de nous repositionner. On a eu aussi un accompagnement de la mission UNESCO justement qui nous a apporté quelques conseils. Et aujourd'hui, on souhaite lui donner un nouveau départ avec de belles ambitions.
Reconnu comme concept pouvant offrir aux vignobles une attraction unique d'hospitalité tout en étant un projet éducatif reconnu au niveau international par des experts UNESCO en 2021, le projet revient avec un nouvel élan en 2024, Jacques Gesson.
Avec la mise en place d'une association pour faire vivre cette opération. Aujourd'hui, elle était portée intégralement par les services de la communauté d'agglomération. On lui donne de l'autonomie et puis on change aussi un peu le calendrier puisque cette opération se déroulait en début d'été, ce qui donnait quelquefois un peu de difficulté pour accueillir des étudiants qui partaient en vacances ou qui n'étaient pas tout à fait libres. Et là, aujourd'hui, on l'inscrit plutôt au printemps pour faciliter la venue de plusieurs nationalités, de plusieurs étudiants.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. La nouvelle structure qui devrait voir le jour début 2024 rassemblera viticulteurs, établissements, acteurs culturels, administrés et probablement des mécènes. Objectif, simplifier les échanges parfois laborieux entre les différents partenaires. Cette nouvelle entité s'appuiera sur les préconisations de la délégation internationale de l'UNESCO reçue en 2021 par la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne. Quelques rendez-vous pour ce week-end. Ce samedi 11 novembre, nous célébrerons l'armistice de la Première Guerre mondiale. Dans ce contexte, dimanche 12 novembre à 11h, en la cathédrale de Reims, sera célébrée la messe en l'honneur des défunts et des morts pour la France dans les conflits. L'équipe locale du Secours catholique Bazancourt Pont-Favergé organise son marché de Noël ce dimanche 12 novembre de 10h30 à 17h sur le parvis de l'église de Pont-Favergé. Parmi les rendez-vous à prévoir, il va y avoir du sport aussi avec un choc en Ligue 1. Le Stade de Reims, 4e après 11 journées, reçoit le Paris Saint-Germain, 2e du championnat. 4 points seulement séparent les deux équipes. Malgré un effectif de qualité chez les Rouges et Blancs, le club parisien et sa pléiade de stars, Kylian Mbappé en tête, apparaît comme favori naturel pour cette rencontre. Pas de quoi casser les ambitions rémoises, l'entraîneur Will Steele.
Je vais essayer de gagner le match, c'est tout. Je pense que On avait été au parc, on les avait embêtés. Ils vont venir à Delo et on va essayer de les embêter. C'est Paris et ils ont tout mon respect et toute l'admiration que j'ai pour ce qu'ils ont fait, l'argent qu'ils ont et les titres qu'ils ont obtenus. Mais au bout du compte, ça reste un match de foot. Ça reste 11 mecs qui vont essayer de se rentrer dedans et essayer d'être plus forts les uns que les autres. Donc ça se respecte parce que c'est individuellement et collectivement, comme je viens de dire, c'est très très fort. Mais on a envie de les embêter, on a envie de jouer notre carte à fond. Et c'est au bout du compte un match de foot comme tous les autres.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardenne, coup d'envoi de la rencontre Stade de Reims-Paris-Saint-Germain, demain samedi à 17h. Le reste de l'agenda des sports du week-end, c'est les féminines du Stade de Reims qui disputeront la 7e journée de D1 Arkema face au Havre, samedi à 15h15 en Ligue 2. 3 se déplacera sur la pelouse d'Ajaccio pour le compte de la 14e journée, samedi toujours à 19h cette fois. Basket, 6e journée de Pro B, demain à 20h, le Champagne Basket recevra Évreux au Palais des Sports Pierre de Coubertin, avec l'obligation de réagir. Une seule victoire en 5 rencontres de championnat pour l'instant pour l'Alliance Champenoise. En volley dès ce soir, Chaumont se déplace à Tours pour la 5e journée de Ligue A. Toutes ces actualités seront à suivre dans le Sportiplex sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes. Prise d'antenne exceptionnelle ce samedi, ça sera à partir de 19h où vous retrouverez toute l'équipe jusqu'à 22h. On est vendredi, place à la météo du week-end. C'est avec notre stagiaire à la rédaction, Manon Bréval. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
Alors quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce week-end ?
Pour ce début de week-end, un ciel tourmenté enveloppé de nuages gris, de rares averses à Langres. Un air frais pour ce samedi matin avec des températures allant de 5 degrés au maximum à 10 degrés. Votre ressenti sur cette matinée sera de 6 à 7 degrés. Pour ce samedi matin, de rares averses avec quelques éclaircies sont à prévoir dans toute la Champagne-Ardenne. Le mercure se stabilise autour de 10 degrés. Une brise légère soufflera tout au long de la journée. Samedi, journée de la signature du traité de paix en 1918, 105 ans à ce jour. N'oubliez pas les Martins, un petit message fait toujours plaisir. Dimanche, vous n'apercevrez pas le lever du soleil. De la pluie éparse est à prévoir, ainsi qu'un ciel très nuageux. Une journée triste et remplie de pluie. Vos thermomètres afficheront approximativement 8 degrés. Un vent léger pour cette journée maussade. Cependant, n'oubliez pas de souhaiter aux chrétiens une bonne fête pour leur redonner le sourire.
Merci Manon, tu restes avec nous jusqu'à 19h. On se joint à toi pour souhaiter une bonne fête aux Martins samedi, aux chrétiens dimanche. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Et nous, on part faire quelques rencontres, quelques découvertes sur le territoire dans cette deuxième partie d'émission. Pour sa 3e édition, l'exposition d'art à la Grange Bernard de Giffaumont-Champombert se tiendra dans le même temps que le festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der. Du 16 au 19 novembre, peinture, gravure, photographie, céramique, masque, bois tourné sont autant de techniques et d'approches artistiques pour saisir la diversité de notre environnement. L'expo, pleine de fantaisie et d'imaginaire joyeux, et le fruit d'un projet collectif. Chacun des 6 artistes propose un travail singulier en lien avec la nature. Anne Gougeot est graveuse, originaire de Giffaumont-Champaubert. Elle présente l'exposition et les artistes présents.
Anne Gougeot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-organisatrice d'une exposition qui va se dérouler à la Grange Bernard, à Giffaumont-Champaubert, oui. Du 16 au 19 novembre. C'est une nouveauté ?
C'est notre 3e édition. Les premières années, nous étions que 3 exposants et cette année, nous serons 6. Le cercle s'agrandit.
Le cercle s'agrandit autour d'amis.
Voilà.
Qui seront les exposants cette année ?
Alors cette année, on aura une artiste de Saint-Dizier qui s'appelle Julia Arslan. Elle nous montrera une peinture abstraite très sensible. Elle utilise de l'acrylique et du pastel. Il y aura aussi Alain Mathieu qui lui fera des objets en bois tourné qui sont tous peints à la main de façon différente. C'est assez ludique comme présentation. Il y aura Pierre Didelot qui est né à Saint-Dizier mais qui est parisien maintenant. Sculpteur de profession, mais là, il va présenter une série de photos qui sont une observation de son jardin. C'est plutôt le regard d'un jardinier sur la nature. c'est un travail assez magnifique.
Et puis il y a les enfants de la maison.
Alors les enfants de la maison, mon frère Philippe Bougeot, qui lui va présenter comme les autres années des masques très amusants qui sont faits d'assemblages d'objets glanés lors de ses voyages en bateau sur les plages. Voilà, c'est un nettoyeur en même temps qu'un sculpteur. Et moi-même, Anne Bougeot, qui suis graveur depuis une cinquantaine d'années, et j'exposerai des gravures pièces uniques, c'est-à-dire ce ne sont pas des multiples, des pièces uniques en couleurs, très vives. Il y aura une sixième artiste qui est céramiste parisienne. Elle va faire, dans l'idée de rester dans l'intérêt de la nature, des nichoirs à oiseaux qui seront faits en grès. Et qui s'harmonise très bien avec le monde végétal, et on essaiera de faire une installation amusante autour de ces nichoirs.
Cette grange, Bernard, en hommage à votre papa, c'est une exposition qui est une fois par an ou vous en faites régulièrement ?
Oui, en fait, on profite un peu de l'événement du festival de la photo animalière de Montier qui attire du monde, voilà, pour montrer nos travaux en parallèle.
Votre grange, Bernard, elle se situe où ?
La Grange Bernard se situe au 1 rue Chantecoq, à Giffaumont-Champaubert. C'est au centre du village, près de la mairie et près du stade. Voilà, c'est assez facile à trouver. Et on va faire un fléchage coloré dans le village. Je voulais signaler aussi que le samedi dimanche, on aurait aussi des musiciens pour rendre la chose plus agréable et qu'on servirait du vin chaud à nos visiteurs, voilà, pour un moment convivial et chaleureux.
Alors les visiteurs, vous les attendez à quelle heure ?
Alors les visiteurs, on les attend tous les jours, du jeudi au dimanche, de 9h à 19h. Ça laisse une grande marge de temps pour venir nous voir.
Et puis pour pouvoir admirer toutes ces œuvres. Puisque je suppose que 6 artistes, ça veut dire de la place pour tout le monde.
C'est quand même une immense grange qui est très belle. D'ailleurs, si on s'intéresse à l'architecture, ça vaut le déplacement.
Donc c'est une grange à pan de bois, comme dans le secteur ?
Oui, avec un beau chêne à l'entrée. On pourrait aussi suivre le programme et les images des exposants sur le site Instagram lagrangebernard51. Avec un tiret du bas entre chaque mot.
Voilà, ça c'est mieux pour ceux qui veulent visualiser avant de se déplacer.
Voilà.
Eh bien écoutez, Anne Bougeot, merci. Et puis bon, on invite nos auditeurs, voilà, à l'aller ou au retour, quand ils vont aller à Montier-en-l'Air, de passer par chez vous.
Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Des propos recueillis au téléphone par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. L'exposition est visible gratuitement du jeudi 16 au dimanche 19 novembre de 9h à 19h. Plus d'informations sur Instagram @la-grange-bernard-51. C'est le tiret du bas, c'est le tiret du 8. C'est le underscore @la-grange-bernard-51.
Le 18-19 sur RCF.
En alternance, une fois tous les 15 jours, on retrouve Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort le vendredi, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes. Il est avec Jean-Pierre.
Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes en direct, vous êtes dans ce studio.
Ah, avec de joie, Reims, enfin.
De retour de l'Assemblée plénière des évêques de France. L'actualité, c'est bien sûr dimanche une marche contre l'antisémitisme qui est organisée à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes de France. Allez-vous participer à cette marche, Monseigneur ?
Ben, je participerai à celle qui est prévue à Reims, oui. De l'actualité, c'est plutôt, je dirais, la montée, semble-t-il, d'actes et de propos antisémites. C'est la tension qu'on sent dans notre société, même française, autour de ce conflit entre Israël et le Hamas, mais qui ne fait que faire ressurgir le conflit entre Israël et la Palestine. En tout cas, le fait qu'on n'arrive pas, ce drame n'arrive pas à trouver une solution. Et il est terrible que ça se traduise par la polarisation des esprits. Mais moi, je voudrais tout de suite ajouter que il me semble que ce qui manque malgré tout dans ce dispositif, c'est que nous redisions à nos concitoyens musulmans notre confiance et notre confiance dans leur adhésion à ce qu'on pourrait appeler le pacte républicain. Voilà, dans cette affaire, on ne peut pas regarder les musulmans tous comme des complices du Hamas, c'est gravement injuste, et ni oublier leur solidarité naturelle avec les Palestiniens qui aujourd'hui subissent à Gaza une situation effrayante et de manière générale en Palestine subissent une situation injuste.
Vous allez participer à cette marche à Reims, Monseigneur. Est-ce que par ailleurs vous êtes en contact, soit comme archevêque de Reims ou président de la Conférence des évêques de France, avec des représentants d'autres religions ?
Oui, alors d'abord la Conférence des évêques sera représentée à la marche à Paris et puis lundi avec le pasteur, le président de la Fédération protestante de France, pasteur Krieger, avec le métropolite Démétrios qui préside l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous irons rendre visite d'un côté au grand rabbin et de l'autre au recteur de la grande mosquée à Paris.
Donc on aura l'occasion d'en reparler, Monseigneur.
Voilà, en tout cas nous essayons de parler avec tous et d'aider les uns et les autres à se parler. Je rappelle que le Conseil des responsables de culte en France, la Conférence des responsables de culte en France, dès le 7 ou le 8 octobre, avait publié avec la signature de tous, y compris du directeur de la Grande Mosquée, du président de l'Union des Mosquées de France, un communiqué condamnant très, très fortement les attentats commis par le Hamas. Donc il faut faire cette confiance-là à nos concitoyens.
Monseigneur, vous êtes revenu de l'Assemblée plénière de Lourdes, dont vous étiez le président. Ça s'est très bien passé. On vous a eu il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut dresser comme premier bilan globalement ?
C'était donc une Assemblée sans pression médiatique particulière, ce qui était reposant pour nous. Et personnellement, je le reçois comme un fruit du travail que nous faisons depuis plusieurs années pour sortir de la crise des abus. Nous avons pris des décisions, nous les appliquons, nous les mettons en œuvre, nous avons fait le point là-dessus. Il y a encore du travail sur ce sujet, mais nous le menons avec détermination. Mais cette session nous a permis surtout de parler de la mission, voilà, quelle est la mission de l'Église, comment et que veut dire annoncer la bonne nouvelle de Dieu dans un monde où Dieu ne veut pas dire forcément quelque chose à tous. Et puis dans un monde aussi où il y a plusieurs religions que nous ne prenons pas toutes pour une émanation du diable, mais dans lesquelles nous trouvons des prémices de l'esprit.
Et cette ambiance générale, on avait l'impression quand on avait des images, soit par Catéo, soit par d'autres médias, que les évêques étaient des évêques heureux de se retrouver.
Oui, mais les évêques sont toujours heureux de se rencontrer, de se retrouver. Cette année, on en a eu plusieurs occasions, que ce soit au JMJ, que ce soit à Marseille, que ce soit pour une partie d'entre nous au rassemblement Kérigma qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines. Donc nous sommes toujours heureux de nous retrouver. Et là, nous étions heureux de pouvoir ensemble réfléchir à l'avenir de nos diocèses, à la situation de nos diocèses, à la transformation aussi de nos diocèses, voilà, de nous soutenir dans les décisions que nous avons à prendre pour que nos structures soient mieux adaptées à l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde tel qu'il est, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui.
Vous aurez sans doute l'occasion d'y revenir, puisque concrètement dans les diocèses, vous mettez déjà en œuvre depuis longtemps cette vision missionnaire d'aller au-devant.
Voilà, nous essayons de prolonger cela, et plus le temps passe, plus nous sentons combien, je dirais, le monde et donc la société autour de nous a besoin d'entendre le message d'espérance que nous pouvons porter, que les êtres humains ne sont pas faits que pour survivre, mais pour vivre pleinement, que nous ne sommes pas seulement juxtaposés les uns aux autres, mais appelés à nous aimer les uns les autres, même si c'est exigeant. Et il nous faut continuer ce travail de proximité.
Dans le prolongement des JMJ de Lisbonne, dans les rencontres avec les jeunes que vous avez fait ces derniers mois, vous êtes heureux de pouvoir réaliser dans le diocèse un certain nombre, voire de progrès, et aussi participer et réaliser les confirmations. Enfin, vous allez dimanche à Lefincourt, dans les Ardennes.
Voilà, il y a donc la saison des confirmations reprend dans l'espace missionnaire Ardennes Sud. Un grand effort de proposition de la confirmation à des enfants de 6e, 5e et éventuellement à leurs parents. Et donc, il y a plusieurs célébrations et notamment donc, les dernières auront lieu ce dimanche. Et pour ma part, je serai à Lefincourt, Mgr Vetteux sera, je ne sais plus où, mais peut-être à Rethel. En tout cas, voilà, nous partageons en tout cas dans cet espace missionnaire, et c'est avec beaucoup de joie, parce que nous découvrons la profondeur de la vie spirituelle d'un certain nombre de personnes. Et je dois dire que ça, c'est très, très émouvant, on le constate dans les lettres. Voilà, il y a de la profondeur spirituelle chez les jeunes et chez les adultes. Et ça, c'est très, très important à découvrir. Nous ne vivons pas que en surface, tout le monde n'est pas que obsédé par des histoires de consommation. à une vraie réflexion de chacun sur le sens de sa vie, sur ce vers quoi nous voulons orienter notre vie. Et j'en suis le témoin émerveillé.
Il y aura aussi ce week-end un rassemblement de la mission ouvrière à Cormontreuil. Vous allez y participer, Monseigneur ?
Oui, donc c'est un rassemblement régional. Il y a, chaque diocèse, il y a des groupes de missions ouvrières qui fonctionnent avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage, qui essaient d'être présents. Ici à Reims, ils essaient d'avoir une présence un petit peu accueillante et rayonnante dans le quartier de Saint-Laurent. Et donc, voilà, nous réunirons dans la salle paroissiale de Cormontreuil. Mais ça sera donc une réunion à l'échelle régionale et nous réfléchirons précisément à ce contexte nouveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça reprendra quelques thématiques de la lettre pastorale que j'ai écrite.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Exposition de matériel photographique, 80 heures de conférences, 100 expositions où plus de 2000 photos sont à découvrir sur 15 sites d'exposition, dont l'abbatiale de Montier et l'église de Champaubert lors de la 26e édition du Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der qui a lieu du jeudi 16 novembre au dimanche 19 novembre. Voici une partie du programme que va nous faire découvrir Christophe Pereira, directeur de l'AFPAN, l'Or Vert de Montier-en-Der, association organisatrice de l'événement international qu'est le festival de la photo animalière et de nature.
Christophe Pereira, bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'AFPAN L'Or Vert à Montier-en-Der et organisateur du Festival international de la photo animalière et de nature.
C'est la 26e édition. Alors après l'édition anniversaire des 25 ans, nous attaquons un nouveau quart de siècle avec un ensemble de nouveautés qui vont composer la programmation de 2023.
Combien avez-vous de parrains cette année ?
Nous avons deux parrains photographiques que sont Olivier Larrey avec un magnifique projet sur les loups qui sera notamment à la Halle au Blé en intérieur au sein de la mairie de Montier-en-Der et puis une exposition en extérieur. Et quelques surprises également concernant son projet, mais je n'en dis pas plus. J'invite les festivaliers à venir. Et le deuxième parrain, c'est Pascal Maître, qui est un photoreporter bien connu dans le monde du photoreportage, qui va présenter un projet qui s'appelle Ibris et qui traite son regard sur le réchauffement climatique dans la planète.
Le nombre de sites est toujours le même ?
C'est 15 cette année, d'habitude il y a 16 sites et le site de Céphon est fermé cette année pour travaux. Mais néanmoins, nous avons fait une programmation autour des autres sites habituels.
D'habitude, c'est la Marne, la Haute-Marne et un peu autour du lac du Der.
Donc ça va de Montier-en-Der, bien entendu. Il y a la moitié des sites à peu près qui sont sur Montier-en-Der. Mais fort heureusement, le festival il a un rayonnement, donc il s'expatrie aussi et c'est très bien. Donc il y a effectivement des relais de lieux que sont Giffaumont, autour du lac du Der, et puis Saint-Dizier également, avec notamment une superbe soirée le samedi soir au Fuseau, avec une projection en avant-première du film Des loups d'Olivier Larrey, qui sera proposé notamment à Saint-Dizier. Donc on a Giffaumont, autour du Giffaumont, la maison de la réserve, Der Nature, la maison de la LPO, et puis Saint-Dizier.
Et puis quelque chose également peut-être dans l'église ?
Comme d'habitude, parce que les choses qui fonctionnent bien et qui donne une entière satisfaction des festivaliers, c'est surtout ces choses-là qu'il ne faut pas bouger. Et on a un site prestigieux qui est l'abbatiale, effectivement, dans la magnifique abbatiale de Montier-en-Der, où seront exposés le concours 2023 du festival de Montier-en-Der, le concours international, et celui de la GDT, qui est un concours très prestigieux en Allemagne. Donc il y a trois concours prestigieux au monde. C'est la BBC, qui est le plus gros, Montier-en-Der en second, et la GDT en troisième. Et donc, l'abbatiale aura le privilège d'accueillir, dans le trio de tête, deux des trois plus grands concours internationaux au monde, celui de Montier et celui de la GDT.
L'édition 2023 démarre
du 16 au 19 novembre, donc c'est toujours la troisième semaine du mois de novembre. Donc cette année, ce sera le jeudi 16 jusqu'au dimanche 19 novembre 2023.
Et les horaires, c'est quelle marge ?
9h-18h le jeudi et 9h-19h le vendredi-samedi. Et le dimanche, on termine un peu plus tôt puisque nous devons penser également au démontage dès le dimanche soir, dès la fin du festival. Donc c'est un rythme très soutenu pour les bénévoles et puis pour toute l'équipe de l'association. 18h le dimanche.
Les bénévoles sont toujours aussi nombreux ?
Ils sont toujours aussi nombreux et nous avons organisé la semaine dernière une réunion publique qui était ouverte à tous ceux qui souhaitaient, donc les bénévoles habituels mais aussi les nouveaux. Et nous avons eu une agréable surprise de voir beaucoup, beaucoup de nouvelles têtes, ce qui n'est pas pour nous déplaire, hein, puisque c'est important d'avoir un vivier toujours actif et toujours dynamique de bénévoles, parce que sans eux, le festival ne pourrait pas se monter.
Il commence à se monter ?
Ça démarre aujourd'hui, figurez-vous. Nous sommes mercredi, donc en fait, l'équipe des transports est déjà à pied d'œuvre, puisqu'on commence aujourd'hui à réceptionner certaines livraisons qui viennent d'un peu partout en France, qui sont du matériel ou des expositions. Et puis le fameux chapiteau, le grand chapiteau qui se monte à côté du COSEC, vient de démarrer son montage ce matin à 7h. Les conditions météo ne sont pas extraordinaires, mais néanmoins, l'équipe qui installe, donc qui est un prestataire vosgien, sont des professionnels et donc travaillent d'arrache-pied malgré ces conditions un peu dantesques.
Et bien sûr, il y a les photos pour les yeux, mais il y a également le matériel pour pouvoir accrocher la plus belle photo.
En fait, nous sommes autonomes dans l'élaboration du festival et surtout le matériel. Donc il y a effectivement, les bénévoles sont affectés aussi sur préparer l'ensemble des supports pour accueillir les photos, la lumière, les panneaux tissus, parce qu'on transforme l'ensemble des sites pour en faire des sites culturels. Le gymnase de Montier devient un site à part entière, la salle des fêtes de Droit, la salle des fêtes de Louz et toutes les autres sont transformées dans leur plus bel écrin pour accueillir des œuvres artistiques, et donc on essaye de faire ça le plus proprement possible, et je pense qu'après 26 ans de succès, je pense que les festivaliers en sont ravis.
Ils attendent tous les ans avec impatience cette édition.
C'est toujours une récompense de voir que le jeudi, effectivement, tout le monde est au rendez-vous et on accueille plus de 40 000 visiteurs. L'année dernière, c'était 45 000 visiteurs. Donc c'est quand même assez important et on est fiers de représenter les territoires de la Haute-Marne, du Der, de la Marne et puis l'ensemble des sites, parce que ça permet de parler de notre territoire de façon très positive et d'avoir un événement à rayonnement international.
45 000 sur 4 jours, ça se bouscule pas ?
En fait, ce qui se bouscule, c'est plutôt la logistique qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a de la logistique que l'on gère et nous, on, dans notre périmètre, on est plutôt bien rodé, mais c'est surtout les hébergements, les restaurants, c'est surtout ça où il faut que les festivaliers anticipent très 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 en amont, parce que d'une année sur l'autre, l'ensemble des supports qui peuvent accueillir les festivaliers qui viennent de partout en France et en Europe, et même dans le monde, hein, c'est surtout cet aspect-là qui est difficile, on va dire, mais entre 45 000 et jusqu'à 50 000 visiteurs, on est en capacité d'accueillir.
L'hébergement dans le secteur peut convenir ?
Oui, oui, il convient d'ailleurs. Sinon, en fait, on accueille régulièrement chaque édition plus de 40 000 visiteurs depuis plusieurs années maintenant. Et donc, en revanche, le périmètre d'hébergement, il est très large. Hein. Il va jusque dans l'Aube, jusqu'à Troyes, hein, par exemple, pour tout vous dire. Colombelles-les-Deux-Églises, Chaumont, voilà. C'est un secteur très, très large, ce qui veut dire que les festivaliers sont des passionnés parce qu'ils sont prêts à faire ne serait-ce qu'une heure de route pour venir de leur lieu d'hébergement. Donc c'est assez spectaculaire.
Quelle va être la collection que vous allez présenter qui vient du plus loin ?
Tout à l'heure, je parlais des loups. On va avoir un photographe qui est un photographe de très grande qualité, mais pas forcément bien connu du grand public, qui va présenter les loups d'Éthiopie, par exemple. Donc ça, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que même morphologiquement, c'est assez différent. On a des lynx qui sont représentés, on a l'ours polaire, mais sur une version allégée, parce que c'est des choses qu'on a déjà traitées par le passé, mais d'une vision qui n'a pas encore été montrée. On a un peu de tous les quatre coins du monde, et puis on a deux territoires que l'on met à l'honneur, et ça c'est très important à être souligné cette année, en plus des deux parrains. C'est l'Amazonie et la Colombie-Britannique au Canada, avec les ethnies, les peuples aborigènes amazoniens qui seront présents, et des photographes brésiliens et aborigènes et indigènes qui seront également présents. Donc on va dire que c'est la petite cerise sur le gâteau pour cette 26e édition.
Christophe Pereira, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'AFPAN, l'Or Vert, l'association organisatrice du Festival international de la photo animalière, 26e édition.
Merci à vous.
Des propos recueillis au téléphone par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. La rédaction de RCF sera présente jeudi 16 novembre avec deux directs proposés à 12h30, notamment par RCF Cœur de Champagne, et le soir à 18h10, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, le 18-19 en Champagne-Ardennes. Ainsi se referme le magazine régional. Ce vendredi soir, on se retrouve lundi 18h10 pour un nouveau numéro. Merci Manon de nous avoir accompagnés ce soir. On vous souhaite un très bon week-end.
Bonsoir, bon week-end.
À bientôt, prenez soin de vous, très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.